Loïc Tassé, bonjour.
Bonjour Bernard.
Alors, on commence avec Bernie.
Oui.
Bernie Sanders.
Bernie Sanders, qui est très aimé au Vermont, qui est relativement aimé aussi en général aux États-Unis, parce que c'est un gars honnête. Ça, il faut lui donner ça.
Ouais.
C'est une image d'honnêteté.
Socialiste honnête.
C'est-à-dire, il se dit socialiste.
Oui.
Mais tu sais, ici, il serait rangé centre. Tu sais, ce serait un genre libéral du centre à Ottawa.
Centre-gauche. Je dirais centre-gauche, quand même.
Écoute, il est pour l'assurance maladie, puis dès que tu dis que tu es pour l'assurance maladie, tu deviens socialiste. Ben, tu sais, au Canada, c'est 99% de la population qui est pour l'assurance maladie.
Mais sur d'autres positions, mettons. Mais en tout cas, bref, il a annoncé qu'il allait se présenter pour l'investiture démocrate.
Exactement.
À l'âge vénérable de
77 ans.
Écoute, ça veut dire qu'il serait, mettons qu'il serait élu en 2020, il y aurait 78.
Oui. Il finirait son mandat donc à 82 ans.
Il a
toute sa tête. Il prétend courir tous les jours. Il fait des kilomètres. Larry derrière approuve, j'en suis sûr.
Ah oui, mais il y a Joe Biden aussi, l'ancien vice-président d'Obama, qui pense se présenter. Mais lui aussi, il n'est pas jeune.
Il n'est pas jeune non plus. Je crois qu'il a 78 ans.
Quelque chose comme ça.
Alors, ça pose un problème. Tu sais, tu as des candidats de plus en plus âgés. Puis aux États-Unis, de manière générale, regarde Donald Trump. Regarde les gens qu'il a autour de lui. Tu as tranquillement une gérontocratie qui est en train d'arriver au pouvoir, c'est-à-dire des gens très, très âgés qui prennent le haut du pavé alors qu'ils devraient plutôt songer peut-être à la retraite. Ça pose
un problème.
Mais
s'ils se présentent, c'est parce qu'ils pensent qu'ils peuvent gagner, mon cher.
Oui, alors c'est ça le problème. Est-ce qu'il va gagner? Il y a 12 personnes à peu près qui vont, jusqu'à présent, qui sont dans la course à l'investiture dans le Parti démocrate.
Pour essayer de battre Trump.
Pour essayer d'être les gens qui vont représenter le Parti démocrate à la prochaine élection.
Oui, pour battre Trump.
Oui.
C'est ça.
Mais on s'entend. Alors, tu imagines ce que ça va faire comme course.
Ah, écoute, mais c'est déjà arrivé qu'il y en ait beaucoup. Ça va se discarter assez vite.
Mais tout le monde se demande est-ce qu'ils vont présenter finalement. Il y a toutes sortes de candidats, il y a des vedettes montantes. On va voir, on va apprendre à les connaître dans l'année qui vient.
Tout à fait. Parlons de cette montée de l'antisémitisme en France. Je trouve ça épouvantable.
Oui,
là, c'est quoi? On a découvert qu'un cimetière juif avait été profané.
Avec des croix gammées. Mais ce qui, en fait, a vraiment mobilisé tout le monde, c'est que tu connais ce philosophe, probablement, M. Phil Kinkraut, grand philosophe.
Ah ouais.
Figure-toi qu'il se promenait ce week-end dans la rue avec quelqu'un et il croise sur son trajet des gilets jaunes. Il s'est fait apostropher. On lui a dit « sale juif, retourne en Israël », des choses comme ça. Il a été profondément secoué, il le raconte. Il dit « remarquez bien que ce n'est pas tous les gilets jaunes qui ont fait ça. Il y en a qui m'ont tendu un gilet jaune, il y en a qui m'ont félicité, etc. » Mais il a été profondément secoué.
Mais il y en avait beaucoup, si je comprends bien, qui le traitaient de sale juif. Là.
Exactement. Puis les gens disent « mais attendez, là, un instant, là, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là » Il y a une montée d'antisémitisme avec aussi de l'hitlérisme. Tu sais, c'est du fascisme aussi, ça vient avec. Et les gens disent, attendez, là, ça commence à faire. Alors donc, ce qui va se produire, c'est que ce soir, il va y avoir un très grand rassemblement de tous les partis politiques français qui sont conviés là, sauf un. Est-ce que tu peux deviner lequel ne sera pas là? C'est le parti de Marine Le Pen, le Front National, le Rassemblement National maintenant, qui n'a pas été invité. Mais tous les autres partis vont être là.
Est-ce qu'elle y serait allée si elle avait été invitée?
Moi, je pense que oui.
Parce que, écoute, moi, je ne défendrai pas Marine Le Pen. Là. Son père était ouvertement antisémite. Là. Il niait notamment l'existence. Il a remis à un moment donné en question l'existence de l'Holocauste.
Il a dit que c'était un détail dans l'histoire.
Oui, voilà. Bon, on s'entend que c'est une forme
de négation. Non, mais c'est
épouvantable. Mais je ne sais pas, Marine Le Pen, elle, est-ce qu'elle a été ouvertement comme ça, négationniste?
Non, je pense qu'elle a essayé de se distancer, justement.
Bon,
mais il y a une partie politique, malheureusement, qui joue aussi là-dessus.
Oui, c'est sûr.
Et c'est ça qu'on voit. Mais tout de même, Macron ne sera pas là ce soir, remarque. Il va prononcer plutôt un grand discours demain devant le Conseil représentatif des institutions juives de France. Et il promet que ça va être un très, très grand discours. Mais donc, il y a vraiment toute la société française, une grande partie en tout cas, qui se mobilise par ça.
Très bien. OK.
Parle-nous
des États les plus sécuritaires et les États les moins sécuritaires dans le monde. Parce que là, il y a un classement qui vient de sortir.
Oui, c'est un classement qui vient de sortir de Global Finance, qui est un magazine financier, qui établit d'ailleurs, entre autres, la liste des banques, des meilleures banques dans le monde. Mais cette fois-ci, ils ont fait une liste des pays les plus sécuritaires. Ça fait un peu la suite avec ce que tu avais, ton histoire de voyage. Alors, ils ont quand même sélectionné 128 pays, parce qu'il y a des pays pour lesquels il n'y a pas de statistiques.
En vertu de quels critères?
Alors, il y a trois grands critères. Est-ce que c'est un pays en paix? Est-ce que c'est un pays en guerre? Premier grand critère.
D'accord.
Deuxième grand critère, la sécurité personnelle. Est-ce qu'on se fait soigner dans ce pays-là?
Est-ce qu'on peut se promener dans les rues? Dans les rues,
exactement,
oui, c'est ça.
Ce genre de choses.
Très bien.
Troisième critère, les risques de désastres naturels.
Oui.
Est-ce qu'il y a des tremblements de terre?
D'accord.
Alors voilà. Donc...
Le pays le plus sécuritaire au monde, ta-ta-ta!
L'Islande.
Ah.
Avec un pointage... Alors, plus le pointage est bas, mieux c'est. Avec un pointage de 6,16, suivi de la Suisse à 7,1, de la Finlande à 7,04, pardon, 0,1, aurais-je dû dire, du Portugal, de l'Autriche, de la Norvège, du Qatar, de Singapour, du Danemark, de la Nouvelle-Zélande, et le Canada arrive au 11e rang avec un pointage
de
7,42.
On est le premier pays des Amériques. Le premier pays des Amériques, c'est le Canada. Ben, c'est bon, ça. C'est quand même bien.
Oui, c'est pas mal du tout.
Hein, les Scandinaves, eux autres, sont toujours aussi forts avec la Finlande, avec la Norvège, avec le Danemark. Et... La Suède n'est pas là, par contre.
Non, la Suède. Bah, écoute, la
Suède,
elle
ne doit pas être loin.
Effectivement,
là.
Elle n'arrive pas très loin.
Oui.
Mais si tu veux, les grandes puissances, c'est intéressant de voir aussi. La France arrive au 36e rang avec une note 9,01. Là, elle est suivie en 38e rang de la Grande-Bretagne à 9,21.
Ouais, donne-nous pas la note, là,
bon,
parce
d'accord.
qu'on la retiendra
pas. Les États-Unis sont au 65e rang,
oui.
La Chine au 81e rang et la Russie arrive au 108e rang. Pas
wow.
sécuritaire du tout.
Et les pires?
Les cinq pires, alors dans l'ordre, au 124e rang, le Nigeria, suivi du El Salvador, suivi du Guatemala, suivi au 127e rang du Yémen et qui est le pire pays au monde, on s'en douterait pas, moi je m'en doutais pas du tout, les Philippines.
Ah.
Parce qu'il y a un problème, d'abord, avec, bien entendu, la nature là-bas. Il y a des tremblements de terre,
oui.
quand même, c'est des volcans. Mais aussi, écoute, la politique de Duterte est une politique extrêmement dure. Et puis, il y a la guerre avec les séparatistes islamistes.
Et il y a beaucoup de corruption, Philippe.
Et il y a de la corruption, etc. Donc, c'est un pays qu'il faut peut-être éviter de visiter si on craint certaines choses.
Oui, on est d'accord. C'est pas nécessairement notre première destination. Mon cher Loïc Tassé, merci beaucoup.
C'est un plaisir.
Dans un instant, nous allons parler du décès, donc de ce grand nom de la mode internationale, Karl Lagerfeld, qui a relancé la maison Chanel. On va parler de ça tout de suite après la pause.